rendez-vous de midi. Musique, littérature, débat d'idées. Au rendez-vous de midi, une émission qui s'inscrit dans le travail éditorial de la revue La Pensée de Midi.
Bonjour, au sommaire de cette émission, trois moments. Tout d'abord, notre fidèle spécialiste du monde musical turc, Nil Deniz, nous introduira dans l'univers de la scène électronique en nous présentant la DJ germano-turque DJ Ipek qui sera présente au Babel Med cette année le 27 mars. La deuxième partie de cette émission sera consacrée à Camus et la pensée de midi. Nous entendrons des extraits des interventions de trois invités qui ont débattu récemment à la FNAC Marseille le 27 février dernier à l'occasion de la série de débats d'idées initiée par le journal Le Monde et la FNAC autour de la figure d'Albert Camus. Enfin, pour la troisième partie de cette émission, vous entendrez le témoignage du compositeur libanais Zad Moultaka, venu présenter devant le public marseillais le 2 février dernier au GMEM son travail de création en cours qui ne sera rien de moins qu'un opéra arabe. Mais tout de suite, on écoute la DJ germano-turque DJ Ipek.
Sur les créations de la diaspora turque en Allemagne, sur les cultures voyageuses et comment la deuxième génération des artistes a su créer une identité multiple et complexe entre le pays où ils ont grandi et leur pays d'origine. Aucun doute que l'influence des artistes de la deuxième génération sur la société grandit de plus en plus et que les artistes comme Fatih Akın, le réalisateur germano-turc, ont changé et renouvelé l'image des migrants en Allemagne, mais aussi en Turquie. Beaucoup de ces artistes créent des nouvelles esthétiques en s'enrichissant de leur propre culture turque et de leur identité allemande, en s'inspirant en même temps aussi du monde entier. Aujourd'hui, avec leur mobilité, ils sont capables de créer des liens transnationaux entre des villes comme Fatih Akın a su le faire entre Hambourg-Altona, le quartier où il crée, où il fait ses films, ou encore la DJ Ipek Ipekçiolo entre Berlin, Kreuzberg et Istanbul, dont je vais parler aujourd'hui. Ces artistes contribuent à une dynamique urbaine, culturelle, comme à Kreuzberg, à Berlin, et revendiquent à partir de ces espaces multiethniques une identité multiple. DJ Ipek est une figure importante et emblématique de la scène nocturne berlinoise depuis les années 80. 10, où elle a initié le Gayhane, un événement mensuel qui s'adressait aux gays et lesbiens issus de l'immigration, mais aujourd'hui devenu culte sur la scène comme un lieu de rencontre, de métissage de tous les Berlinois. Elle se fait connaître avec son style éclectique en Allemagne et sur la scène internationale. En 2005, elle a remporté le World Music DJ Contest à Londres et ses compilations comme Beyond Istanbul, Underground Grooves of Turkey ou encore Import-Export à la Turca lui ont valu les meilleures critiques. Écoutons maintenant un morceau de sa deuxième compilation, Import-Export à la Turca, qui s'appelle Istanbul-Berlin, de Sendefreie Rakete, avec la rappeuse Aziza A.
We'll be right back. Bombay, Istanbul, Berlin. Die Sonne scheint und wir haben nichts drunter. 10:1, Istanbul, Berlin. Am Horizont geht die Sonne unter. Es wird Nacht in Istanbul, Berlin. Mein Blut pulsiert und jetzt werd ich munter. Mir wird heiß, Istanbul, Berlin. Ich will dich gern verstehen, du wirst mich verstehen. Ich will dich gern verstehen, du wirst mich verstehen. Ich will dich gern verstehen, du wirst mich verstehen. Ich will dich gern verstehen. Du duftest so schön, Istanbul, Berlin. Du funkelst so grell, Istanbul, Berlin. Du duftest so schön. Istanbul, Berlin. Ein offenes Fenster und ein Bildschirm flimmert. Wie mein Herz, Istanbul, Berlin. Ich schwimme dir durch Orient, Romantik, durch glitzernde Hochzeitsmeer. Und liegt die Heimat auch in weiter Ferne. Uns trennt nur nichts mehr, Istanbul, Berlin. Ich will dich gern verstehen, du wirst mich verstehen. Ich will dich gern verstehen, du wirst mich verstehen. Ich will dich gern verstehen, du wirst mich verstehen. Ich will dich gern verstehen. Du duftest so schön, Istanbul, Berlin. Du funkelst so grell, Istanbul, Berlin. Du duftest so schön, Istanbul.
Personnage à mille facettes, DJ Ipek s'est fait connaître non seulement par ses samplings et ses émissions de radio, mais aussi par son engagement politique et social. Elle a également publié des divers articles sur les questions d'identité, sur son homosexualité et l'appartenance à la seconde génération d'immigrés en Allemagne. Éclectique Berlinistan, qu'elle considère comme son style à elle, est un mixage hybride et de rythme éclectique bricolant les sounds urbains berlinois aux musiques turques, la musique bollywoodienne, les balkans, les breakbeats et le pop. Elle dit que ça reflète sa double identité entre Istanbul et Berlin. Donc elle se dit toujours, j'ai une valise que j'ai toujours avec moi, le Berlin et les sounds d'Istanbul. Donc ne ratez pas DJ Ipek à Babelmed Music cette année du 25 au 27 mars à Marseille. Et on va finir avec le morceau Les enfants d'Istanbul, Istanbul Çocukları, de DJ Ipek et Baba Zula. We'll be right back.
deuxième partie de cette émission, séquence littérature. La pensée de midi est une image inventée par Albert Camus. Comment la définir? Peut-elle nous aider à comprendre le monde contemporain? Pour répondre à ces différentes questions, la FNAC de Marseille avait invité le 27 février dernier trois orateurs. Thierry Fabre, auteur de l'essai « Éloge de la pensée de midi » paru aux éditions Actes Sud, Jean-François Mattei, auteur de l'ouvrage « Albert Camus et la pensée de midi » paru aux éditions Ovadia, et Jean-Yves Guérin, auteur du dictionnaire « Albert Camus » paru chez Robert Laffont. Vous allez entendre successivement des extraits des interventions de chacun de ces trois auteurs. Le débat était animé par le brillant Eduardo Castillo.
Mais vous dites dans votre livre que c'est l'image vagabonde née sous la plume d'Albert Camus. Alors c'est quoi pour vous justement cette pensée de midi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait clair aussi.
Moi je commencerai par parler d'un poète qui est René Char. Parce qu'au fond, l'expression de la pensée de midi, c'est un texte une notion qu'il utilise dans une conférence radiophonique pour parler de René Char, cette haute figure de la pensée de midi. Et j'ai d'ailleurs amené...
Il a un très beau livre des correspondances de René Char.
Oui, j'ai amené aussi, parce que ça, y a j'en donnerai quelques passages, mais j'ai amené aussi une revue quand même célèbre dans cette noble ville de Marseille, qui sont les Cahiers du Sud, Permanence de la Grèce, numéro spécial fait par Jean Ballard. Et le dernier texte s'appelle L'exil d'Hélène. Qui est la Méditerranée à son tragique solaire, qui n'est pas celui des brumes. Donc on a là, les Cahiers du Sud, la première expression de la pensée de midi, et qui est au fond une image. C'est pas un concept, je pense que Jean-François Mattei, qui est philosophe, ce que je ne suis pas, pourra sans doute le dire bien mieux que moi. C'est une image, c'est presque une image poétique d'une certaine façon. C'est une façon de regarder... le solaire est tragique en même temps, puis c'est une pensée des limites, c'est une pensée de son temps, on reviendra sans doute tout à l'heure sur ce qu'elle a à nous dire sur le nôtre, parce que ce qui me paraît intéressant aujourd'hui, et c'est sans doute pour ça que nous sommes tous devenus camusiens, qu'en tout cas de plus en plus de gens, alors qu'il y a 20-30 ans, c'était pas vraiment à l'ordre du jour, c'était plutôt sartrien. Écoutez, je suis pas sûr que les éditions auraient trouvé cet écho comme ça a pu avoir ces derniers temps. Il y a une pensée de Camus qui est extrêmement fertile et qui nous permet de penser les limites. Et ça, moi, j'aimerais revenir tout à l'heure sur le rapport Renielis et sur ce que Camus a à nous dire. Et de ce point de vue-là, la pensée de midi, ça inspire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a donné le titre à une revue il y a 10 ans. On l'a créée avec Jean-Claude Izzo, avec les éditions Actes Sud. C'est justement pour prolonger cet héritage n'est précédé d'aucun testament, selon René Char. C'est bien ça, c'est de voir comment cette intensité que nous a légué Camus et ce rapport à un monde méditerranéen, qui est un rapport ouvert, c'est pas du tout un régionalisme. Il utilise à un moment... on n'est pas du tout dans un nationalisme du soleil. Ça n'a pas de sens pour lui. C'est vraiment... Au contraire, il lutte, comme d'ailleurs les Cahiers du Sud, il lutte très très violemment contre les fascistes, qui ont cette idée d'impérialisme méditerranéen, du Mare Nostrum, des choses comme ça. Camus, il est résolument à l'opposé de cette vision-là, avec les discussions qu'il a pu avoir chez Charlot, avec Gabriel Odizio. Donc là, il y a la matrice de quelque chose qui a à nous dire pour aujourd'hui, et c'est bien la pensée de midi et pas la pensée du midi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un régionalisme, dans un localisme, on est dans une vision qui a un rapport à l'universel.
Jean-François Mattei.
Dans son mémoire de diplôme d'études supérieures de philosophie sur Saint-Augustin et Plotin, il essaye de faire une sorte de synthèse de ce qui s'appellera la pensée de midi. Et j'en reviens donc en rebondissant, s'il me le permet, sur Thierry Fabre, à cette expression de pensée de midi que Camus a trouvée chez Nietzsche. Lorsque Nietzsche, à Nice, écoute pour la première fois Carmen de Bizet et trouve une sorte de catharsis à se purifier des brumes nordiques, c'est-à-dire de Wagner, des Nibelungen et de tout le monde douteux pour Nietzsche, qui avait été le grand ami de Nietzsche et de Wagner et de Cosima Wagner, il se purifie, et c'est à ce propos qu'il dit « J'entends pour la première fois une musique de midi qui développe une pensée de midi ». Or, à l'époque des années 30-40, quand Camus est encore en Hippocagne, à Alger, avec son maître Grenier dont il a été question, Camus est très très marqué par Nietzsche. Et il découvre chez lui cette dimension universelle qui est finalement la dimension grecque, et je ne dirais pas gréco-ladine, puisque Camus, comme Simone Veil, n'aimait pas du tout les Romains, n'aimait pas du tout l'impérialisme romain, n'aimait pas du tout même à la limite la langue latine, et préférait la langue et la culture grecque fondamentalement. Donc la pensée de midi, c'est essentiellement, d'où l'exil d'Hélène que vous citiez très justement il y a un instant, qui montre comment la grande culture européenne, partie d'Athènes et de Jérusalem, s'est finalement vidée d'elle-même, s'est finalement exilée, et a donné naissance à une nouvelle guerre mondiale, parce que c'est l'exil d'Hélène, ne l'oublions pas, qui a créé la guerre de Troie, parce qu'elle a été ravie par Paris Alexandre. Et la guerre de Troie, c'est la première guerre mondiale, puisque c'est la guerre qui oppose les Achéens, c'est-à-dire les Grecs, et les Troyens, c'est-à-dire les Asiatiques. Donc c'est l'Europe contre l'Asie. Et cela, même, vous le trouvez chez Platon, lorsqu'il revient sur le texte d'Homère. Or, l'exil d'Hélène a causé la deuxième guerre mondiale, ou la première et la deuxième guerre mondiale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, lorsque l'Europe déserte la pensée des limites, que vous avez très justement souligné, à ce moment-là, elle tombe dans la démesure folle, pas simplement la démesure de la guerre, mais la démesure de la barbarie que Camus trouvait dans la technique, qu'il trouvait dans la politique, qu'il trouvait même dans l'art, on le voit très bien dans Révolte et Art, à la fin de l'homme révolté, c'est-à-dire dans une dimension où l'Europe n'est plus sa propre fille. Voilà pourquoi il parle à la fin de l'homme révolté de l'ignoble Europe et des petits Européens.
Mais en même temps, lorsqu'on parle de la pensée de midi, il a sa terre natale qui est l'Algérie, et vous rappelez dans votre livre, ce qui dit Camus, je n'ai jamais rien écrit qui ne se rattache de près ou de loin à la terre où je suis né. Et en même temps, c'est ça l'intérêt de Camus, c'est sa portée universelle à partir de la description de la...
C'est ce qui est souvent mal compris par les lecteurs de Camus, qui le lisent, si je puis dire, en France, ou comme on disait auparavant, en métropole. C'est-à-dire pas par-delà la mer Méditerranée. C'est-à-dire que ceux qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée, ce qui est mon cas, et pas simplement parce que je suis corse, je dis bien de l'autre côté de la Méditerranée, je suis né à Oran, là où se passe la peste, partage avec Camus une sorte, de connivence, ou d'harmonie avec la nature, avec une force telle qu'on ne l'a jamais retrouvée, même pas à Lourmarin, dont il était question tout à l'heure, lorsque René Char engage Camus à s'installer à Lourmarin. Camus n'a jamais été totalement provençal. Ce n'est pas Henri Bosco, ce n'est pas Jean Giono, mais il partage avec eux une dimension cosmique. Je dirais même que ce qui me paraît essentiel chez Camus, et que l'on ne trouve absolument pas chez Sartre, quand Sartre est devant la nature, il a la nausée, Camus parle au contraire de la tendre indifférence du monde et se jette littéralement dans ce flot de mer et de soleil qui, certes, a une dimension primitive et même barbare, il parle de notre heureuse barbarie à un certain moment, mais qui a aussi une dimension universelle. Parce que
c'est aussi parce qu'il pense avec son corps.
C'est parce qu'il pense avec son corps. Et là, il développe des thèmes qui seront retrouvés à peu près à la même époque par Husserl et par tous les phénoménologues qui montrent que l'on pense d'abord avec son corps, ce qui était aussi une idée, je ne veux pas parler trop longtemps, une idée nietzschéenne. C'est-à-dire que ce que Nietzsche appelle le grand corps, qu'il veut substituer à la grande âme, chrétienne ou platonicienne, c'est l'idée que nous sommes essentiellement des êtres charnels, des êtres sensuels.
Mais pardonnez-moi, en même temps, il y a en Méditerranée aussi pensé des midis, il a ses rapports aussi particuliers à la mer et au soleil, qui est tout à fait important. Et d'ailleurs, même de l'idée aussi des noms des personnages principaux de l'étranger, Merceau, c'est Mer-Soleil aussi. Donc c'est un jeu de mots aussi. Donc tout ça est présent toujours dans l'esprit et dans l'œuvre de Camus.
Oui, mais je...
Non, mais c'est important de parler des noms qu'utilise Camus dans ce...
Oui, parce que c'est rare qu'il utilise des noms et qu'il joue avec les symbolismes. Soit les noms, il les emprunte à l'histoire, personnage des justes, d'où, me semble-t-il, l'Algérie est totalement absente. Il est relativement peu original. Mais il y a quelques exceptions. Il faut noter aussi que très souvent, les noms dans les personnages de fiction sont tout simplement empruntés à sa famille. On a des Cordemerie, des Cardona, d'autres personnes qu'il a connues. Hein. Donc, je pense que ce n'est pas un écrivain qui sur-symbolise les noms de ces personnages romanesques qui étaient introduits. Mais il y a des exceptions. notamment celle-ci.
Il y a quand même dans le premier homme, qui est quand même le chef-d'œuvre ultime de Camus, il y a quand même le personnage qui représente Camus qui s'appelle Jacques Cormery et dont les initiales sont J.C.
Jésus-Christ.
Et il dit dans les notes préparatoires à cela, dans les notes préparatoires au premier homme, qu'il s'identifie totalement à sa mère, mais que sa mère s'identifie totalement au Christ. Donc c'est un syllogisme en Barbara qui est parfait. Si ma mère s'identifie au Christ, et si je m'identifie à ma mère, donc je m'identifie au Christ.
Mais en même temps, vous dites que c'est un philosophe nietzschéen qui a toute cette dimension, je dirais anarchiste aussi, libre-penseur, disons, libre-penseur de midi. Et il y a cette belle formule que Nietzsche utilise pour parler de Carmen de Bizet, la beauté brève et périlleuse de la gaieté fataliste. Et il me semble qu'il y a chez Camus, dans la pensée de midi, cette notion de gai savoir, qui vient d'ailleurs du Provençal, de la gaia science. Et je crois que c'est une dimension très fertile, qui est effectivement une philosophie qui a un rapport au corps, au paysage. Il ne faut quand même pas oublier que le gai savoir se termine par un bel ode au Mistral, et donc dans ce rapport cristallin à la lumière. Et ça, il suffit de lire un petit peu Camus, d'aller à Tipaza, d'aller sur ses traces, pour se rendre compte que le rapport à la lumière est au cœur de cette pensée de midi, de cette verticalité lumineuse qui l'éclaire et qui ouvre son chemin et qui ouvre le nôtre. Parce que c'est ça qui me paraît intéressant, c'est que c'est pas simplement une lecture de philosophe sur Nietzsche, c'est qu'il se nourrit des bonnes leçons de philosophie, j'imagine, de Grenier, qui d'ailleurs avait écrit un des plus beaux textes sur la Méditerranée qui s'appelle Île, Promenade en Méditerranée, et Camus, de ce point de vue-là, il en tire son fruit. Et son fruit, c'est un fruit extrêmement savoureux, juteux, avec lequel on peut aujourd'hui bâtir quelque chose par rapport au nihilisme de notre temps. Et il me semble que la force de la pensée de midi, c'est ça, c'est l'alliance du gai savoir et du goût de la vie.
C'est le savoir-vivre.
Voilà, c'est le refus du nihilisme que Camus a vécu au plus profond de sa vie, de sa chair, à travers les deux totalitarismes. C'est d'ailleurs ce qui le rapproche encore de Germaine Tillion. C'est quelqu'un qui s'est résolument opposé au fascisme, qui s'est résolument opposé au nazisme, et qui s'est résolument opposé au communisme et au stalinisme, et on lui a fait payer très très cher après-guerre. C'est aussi peut-être pour ça qu'on n'était pas à la mode de Camus. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte, au fond, du caractère extrêmement clairvoyant de Camus pour penser son temps et penser le nôtre. C'est-à-dire qu'il ne consent pas, il n'accepte pas que l'Europe et le monde méditerranéen soient simplement à la fois des décombres et des ruines du passé et à la fois quelque chose qui ne produit que du non-sens, du nihilisme. Et il cherche par-dessus tout un sens à donner à la joie et à l'espoir. Et de ce point de vue, il me semble que la rencontre avec René Char, elle est formidable. D'ailleurs, c'est quand même assez extraordinaire. Il publie les feuillets d'hypnose dans la collection qu'il a créée chez Gallimard et qui s'appelle Espoir.
C'est l'étendue en passant, c'était deux résistants de la guerre.
C'est pas du tout un hasard. C'est pas du tout un hasard. Et donc, je veux dire, c'est deux figures qui se reconnaissent. Et si vous donnez 30 secondes, je vous lis un tout petit passage de ce que René Char écrit à Camus, donc une lettre de dimanche de mai 1951. J'ai trouvé votre lettre du 5 mai qui m'attendait à mon hôtel en revenant de Lille et des Hautes-Alpes. Votre approbation, votre affection font que la grimace et le hoquet des hommes sont moins hostiles. Font surtout qu'on distingue dans le visage du soleil une clarté qui, tout en étant celle de tous, a une vertu balsamique qui ne se gaspille pas en vain, car elle n'est accueillie que par quelques-uns, ceux-là même qui la versent au compte scrupuleux de l'espérance de demain. Merci d'être un de ces essentiels. C'est un chef-d'œuvre, cet échange de lettres entre Camus Hervé Deschard, et ceux qui ne l'ont pas encore lu, précipitez-vous tout de suite dans une bonne librairie juste derrière. Franchement, c'est somptueux. Non, mais c'est vraiment. Il y a une altitude et un sens de l'amitié, de la fraternité entre eux, de ce qui les relie, qui est. On rêve de partager des amitiés de cette altitude.
Troisième et dernière partie de cette émission, incursion dans l'univers d'un créateur. Vous allez entendre le témoignage du compositeur libanais Zad Moultaka, venu présenter devant le public marseillais le 2 février dernier au GMEM, groupe de musique expérimentale de Marseille, son travail de composition d'un opéra arabe en trois actes, son premier opéra. Zajal est le nom de cet opéra, mais aussi celui d'une pratique de joute poétique, toujours très vivante au Liban. Aussi, le livret de cet opéra raconte une soirée de joute, de Zajal donc, où un prêtre, grand Zajali, se voit défié par un étranger. Vous entendrez dans les extraits suivants choisis et sélectionnés pour vous par Catherine Payon, Zad Moultaka décrire ses intentions. Pourquoi avoir choisi de créer un opéra? Pourquoi ce choix de joute musicale comme base du livret? Pourquoi le choix d'une fanfare pour l'accompagnement musical et d'une grande chanteuse Fadia Tombelhadj? Et pourquoi ces jeux sur la langue et la métrique arabe? Les extraits sonores diffusés, que vous entendrez successivement, correspondent à des extraits non encore finalisés de l'acte 3 de cet opéra, hormis le premier extrait qui nous vient d'une séance de Zajal traditionnelle enregistrée dans les années 70.
Au Liban, quand j'étais petit, il y avait des trous comme ça, et puis de temps en temps, on mettait à la télé des petites choses, donc, dont le Zajal, qui est en fait une forme, une forme de joute oratoire qu'on trouve au Liban, qui est encore d'actualité aujourd'hui, qui est encore en pratique. Et dans quelques pays du bassin méditerranéen, mais qui malheureusement se perd. Parce qu'en plus, quand on parle de Zajal aujourd'hui au Liban, on regarde en disant « Tiens, tu travailles sur le Zajal, mais qu'est-ce qui te prend ?» Enfin, c'est comme si c'était une forme un peu de troisième zone ou de quatrième zone. Et en fait, j'ai toujours été attiré par cette forme-là. La scène, c'est quelque chose qui m'intéresse, peut-être parce que mes parents viennent de la scène aussi, ils sont metteurs en scène et comédiens. Donc j'ai toujours été assez attaché et dans le sens de spatialiser la musique, mais pas pour spatialiser la musique, mais pour créer un espace de communauté, un espace et de casser le rapport public-musique, etc. Bon, ça c'est des questionnements qu'on trouve chez plusieurs compositeurs à travers le temps aussi, mais voilà, pour dire, c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup. La question de l'opéra aussi, quelque chose qui me poursuit depuis des années. Bon, aujourd'hui, je sens que je peux commencer un petit peu à avoir quelques réflexions, à attaquer un petit peu ce travail-là, qui est un travail assez difficile et énorme, parce que tout le monde sait ce que veut dire l'opéra et tout ce que ça représente. En même temps, l'opéra que je voyais, je sentais qu'au niveau de l'identité que je porte aussi, qui est bien sûr d'une part occidentale et d'autre part orientale, qui sont mes racines, j'ai senti que c'était un espace qui ne correspondait pas tout à fait à l'espace de musique dans lequel je cherchais. Je me suis dit, j'ai envie de trouver un espace qui est cet espace de, peut-être qu'on peut appeler l'espace de l'opéra. C'est pour ça que j'ai assumé le mot, ça, j'ai dit voilà, je pose la question de l'opéra, Zajal, c'est un opéra. Je me suis dit, bon, je commence à zéro, je repars de zéro. Qu'est-ce que c'est l'opéra? C'est quelqu'un, c'est des gens qui sont là, qui sont assis, qui vont écouter une histoire, qui vont... Il y a des décors, il y a des choses, Où est-ce que je peux trouver une racine, quelque chose qui ressemble à ça, mais qui soit complètement primitif, en fait? Et la première idée qui me soit venue à l'esprit, c'est le conteur. J'avais pas envie de me retrouver avec des décors, j'avais pas envie de me retrouver avec des choses trop... Qui empêche en fait d'écouter la musique ou qui empêche de vivre quelque chose. J'ai trouvé une réponse, un début de réponse dans le conte, avec ce personnage qui est là, qui raconte une histoire. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que quand il raconte l'histoire, il construit son propre décor. J'ai toujours entendu parler d'une histoire qui est assez sympathique, qu'on raconte au Liban, dans un village perdu dans la montagne libanaise. C'est un village où il y avait un très grand jouteur, très très fort, un type un peu fou, un prêtre, et d'ailleurs qui avait un revolver, et quand il n'était pas content, il tirait en l'air, enfin, c'était un personnage un peu comme ça. Et un jour, on vient le voir, on lui dit, il y a un jeune homme qui vient vous défier dans les joutes oratoires. Ah bon, mais qu'est-ce qui ose venir me défier? Donc on dresse les tables, et puis la joute commence, et il commence à me défier. Le vieux monsieur lui dit, bon, puisque tu as l'air si fort, essaye maintenant de me faire un quatrain qui commence par telle lettre, qui finit par telle lettre. Enfin, c'est des jeux, en fait. Et d'ailleurs, le jeu de la langue, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est aussi beaucoup dans mon travail, c'est sur le questionnement sur la manière de casser la langue, de travailler les syllabes, ou de rechercher la substance de la langue qui soit au-delà du sens premier. En fait. Il continue, puis à un moment donné, il dit, bon, tu es vraiment très très fort, allons nous reposer. Et puis revenons après pour continuer pour cette soirée. Donc ils vont se reposer, ils reviennent, ils reprennent, et là il y a quelque chose qui s'inverse, parce que le jeune homme devient tellement de plus en plus fort qu'il, en quelque sorte, il prend la main, et puis à la fin il lui dit, bon, maintenant tu dois me donner le certificat, le diplôme, comme quoi je suis celui qui a enivré les Arabes, que je suis le plus fort, etc. Donc tout le monde est suspendu, et puis un silence se fait, puis le vieil homme m'a dit, alors dis-moi qui tu es. Il se découvre, et c'est son fils. Voilà, c'est une histoire très archétypale, c'est le rapport de fils au père, etc. Moi, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est aussi le rapport entre la modernité et la tradition. C'est aussi le rapport entre le cacher et le montrer. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont doubles et que je trouvais vraiment très intéressantes. Incroyable, et d'ailleurs au niveau mélodique c'est très très simple, c'est toujours, ça tourne toujours en rond, c'est toujours la même chose. Ce qui est passionnant aussi, c'est que je me suis rendu compte que même sans écouter, parce que c'est un enregistrement des années 70, d'une soirée très 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 importante du Zajac, de l'histoire du Zajac, et je me suis rendu compte dans certains moments où on ne comprend rien de ce qu'ils disent parce que l'enregistrement est trop mauvais, qu'il y avait quelque chose qui montait au niveau de l'énergie quand même si on ne comprend pas les mots. Mais je trouve ça extraordinaire, c'est comme s'il y avait quelque chose au-delà du sens qui est véhiculé par autre chose, par l'énergie de la vie, de la terre. Voilà. Donc j'ai lu le livret, je trouvais ça absolument délicieux. C'est du dialecte libanais, mais de la montagne, donc il y a plein de choses complètement incompréhensibles, mais avec l'énergie du mot du extraordinaire. Par exemple, il lui dit « Maintenant, fais-moi une tirade avec que des verbes impératifs. » Donc, il est là, « Je tape la tête, des choses comme ça, très, très rythmées. Très, et du coup, je lui dis bah, « C'est aussi le début du rap, et le début du slam. Enfin, » C'est très difficile de s'attaquer à des formes comme ça, parce qu'il ne s'agit pas de venir casser pour casser, ou de dire « Oui, moi, je viens... » J'utilise cette matière pour en faire je ne sais pas quoi. Enfin, parce que je ne voulais pas rentrer dans le rapport père, fils, tout ça. Je voulais rester plus dans un rapport de double.
Aïe. Aïe, وين بتغدي بحجالك لو بازي رف وكيف ما بتزبط احسن بكسر المعنى لا اتنسيون
اوكي اوكي
الوين بتغلي بحجالك لو بازي رف وكيف بده يصير بحوالك لو حام وغف يا صغير خبي حالك وتلطى وقف احسن ما يضيء بجالك وتروح ضيعان.
Bien sûr, il y a un sous-titrage qui est travaillé comme vraiment comme faisant partie de la partition, c'est-à-dire avec une rythmique. Parfois, il va apparaître d'une façon directe, parfois, il va disparaître d'une façon plus... Voilà, c'est-à-dire que ça joue vraiment avec la langue. Et l'idée, c'est de retrouver la place du village. C'est-à-dire, en fait, on est tous sur la place du village, tout le monde ensemble. Et il n'y a plus vraiment de... Bon, il y a toujours cette séparation qu'on voit d'ailleurs ici, mais on est vraiment dans le même espace. De cet enregistrement que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai pris des tout petits bouts entre les chants, c'est-à-dire on entend les gens qui disent « Yalla, olé !» Enfin, c'est comme des « olé » ou comme ça, des exclamations. « Oui, vas-y, oui, t'es le plus fort, etc. » Je me suis amusé à couper, parfois c'est moins qu'une seconde, où des gens qui relancent un peu partout, donc j'ai des centaines et des centaines de petits bruitages comme ça, qui vont être éparpillés dans la salle, avec des applaudissements, avec des gens qui crient, avec des... Et du coup, de transformer cet espace-là, malgré le public, en un espace public, en une énergie, avec des gens qui applaudissent, des gens qui crient, des gens qui... Alors après, l'inconnu, c'est est-ce que le public, du coup, le vrai, est-ce qu'il va suivre ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais je pense que c'est intéressant, parce que ça pose aussi la question... Ça pose pas mal parce que parfois, on applaudit à nos places. Parfois, il y a ce côté aussi de nous dire ce qu'il faut faire, de nous dire une espèce de... Il y a cette question-là qui peut se poser. Mais il y a aussi comment créer une énergie complètement que des artifices, mais on a l'impression que vraiment on est sur la place du village, qu'il y a des gens qui sont là, et qui mangent, et qui crient, et qui... Voilà. Et je ne vais pas vous dire comment ça se termine, parce que on va de plus en plus vers quelque chose d'un peu étrange, un truc assez drôle, J'étais très étonné par rapport au travail de langage, parce que je me suis rendu compte en travaillant surtout le premier acte et le troisième acte, qui est que la langue et la rythmique et cette culture-là étaient d'une telle force que j'avais l'impression qu'elle me prenait par la main et me disait « voilà, maintenant, tu vas là ». Et ne me fais pas des histoires de je ne sais pas quoi. Donc du coup, la question de langage, je sais même pas poser, c'est-à-dire est-ce que c'est un langage comme ci, comme ça, je ne sais pas. Je vais vous faire entendre les différents plans, donc les petits bouts. Alors, on va se retrouver avec il y a eu des sons comme ça, par exemple. Voilà. Ou bien... Voilà, ou bien... Et c'est drôle parce qu'en fait, en écoutant comme ça, on ne se rend pas compte que c'est la même chose. C'est en travaillant tout à l'heure, je disais, mais en fait, j'ai pris exactement les mêmes échantillons partout, mais on a l'impression que ça change tout le temps. Et voilà, je viens de d'autres. Bon. À un moment donné, donc, vous allez entendre. Premièrement, vous allez entendre la voix donc du prêtre qui a été enregistrée à Beyrouth il y a 3 semaines par un acteur libanais, le comédien. Donc il disait le texte, il était très tendu, parfois il se trompait, parfois il toussait, il disait « Ah là, mais j'arrive pas, mais c'est quoi la mélodie, j'arrive pas à trouver la mélodie », puis il s'énervait et tout. J'ai pris des moments comme ça où il se trompe, tout ça, pour créer aussi la dramaturgie au niveau de tout ce qui se passe jusqu'à la fin, cette espèce d'apogée où il va se découvrir.
قبلك عرفوا الناس فيي وقالوا غنى انا وبلقى فولي قاري رغبان
الثاني غنيت قصداه
معلم قراي برنجي متلك ما لقيت تفهم تركي وفرنجي اكثر محتاج تعرف تقرا وتهجي بيضات بزيتي رشتة وشواطة وعجي
قلبك فرحان في جدك طالع طلعة بعد بتشرب من يدك زوم الملعة حس رح تخرج عن حدك وتزيد دلعة بعرف اقرا تربدك اربع اضباب
ما بتلحق تضرب ضربي ويصير في دم تلكوتي صدرك حربي مسكيني سم لولا ما كنت غربي ويقبلي انت اعمل حكي شرب رجالي ونسوان
اصحى تجعل تلقيمك مطبوخ الجص لقمة كبيرة بتضيمك داخلها مقص تقيلة كتير عزلعيمك فيها بتغص بتهدى بين خياشيمك متلم بالله
La fanfare, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans, au Liban, en tout cas, surtout dans des villages, par exemple, pour tout ce qui est ou musique de mariage, ou même musique de, d'enterrement, ou de deuil, de choses comme ça. La fanfare, c'est un élément qui est extrêmement présent. Ici, il manque la dimension du quart de ton au niveau des instruments, qu'on n'a pas parce que la machine ne sait pas le faire. Mais il y a plein de... Au niveau de la couleur, ça va être une couleur quand même avec pas mal de micro-intervalles. Il y a une telle énergie, une telle répétitivité dans la parole et dans les rythmiques des mots que c'était impossible de sortir de ça. C'est comme si on rentrait dans un piège et qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Et sortir de là, on est dans un autre projet. C'est-à-dire j'ai essayé de vraiment m'approprier plus certaines choses, d'aller plus vers des au niveau rythmique, dans des choses beaucoup plus complexes, tout ça, et ça ne fonctionne pas.
التقوى في محلولي حيث المقصود يظهر أولك وأولي للاستحسان خلي الواضح للأعمى يضوي ويظهر وشرح الغامض للعلمة وناس الشطار والبدو يفرح ينمى بسطو يكبر وهل بيتكدر يغمى ويفيق زعلان خلي الواضح للأعمى يضوي ويظهر وشرح الغامض للعلمة وناس الشطار والبدو يفرح ينمى بسطو يكبر وهاللي بيتقدر يغمى ويفيق زعلان
On va être en résidence début avril au TAP, donc au théâtre de Poitiers, dans le théâtre de Poitiers. Et là, au départ, la partition va être travaillée toute seule, et ensuite, on va travailler avec la bande son pour sentir les dynamiques, les énergies, parce qu'en fait, il faut créer un faux live. L'idée, ça serait ça, c'est de créer un espace où on a l'impression que les choses se passent maintenant, un rapport entre le réel et d'ailleurs, en fait, tout ce qui est électroacoustique, c'est un espace de d'hyperréalité. C'est un peu comme l'hyperréalisme en peinture. C'est, l'idée, c'est de faire vrai, un faux vrai. Enfin, voilà. Donc il y a quand même des deux sens entre la parole et le chant. On est dans un théâtre, dans peut-être le théâtre musical. Alors est-ce que oui, je sais pas encore. Il n'y a pas encore assez de recul parce que là c'est vraiment, je suis dans la matière même du travail. J'ai pas de recul du tout. Les choses ne sont pas encore là. Quand il y a les musiciens en face, on vit pas les choses pareilles. Il va se passer plein de choses. En plus dans un espace de théâtre. Tout ça va, je pense, apporter pas mal d'éclairage aussi sur ce que c'est cet objet, en fait. Parce que c'est un objet un peu... c'est un peu compliqué, mais en fait, il y a tous les éléments de l'opéra. Il y a l'élément dramatique, il y a le jeu, il y a quelque chose, il y a une dynamique qui... Enfin, il y a tous les éléments de l'opéra, mais un opéra un peu... Est-ce que c'est légitime de l'appeler opéra ? Pose aussi quand même la question. Je sens intérieurement que c'est ça, qu'il y a des éléments qui sont là, que ça peut porter ce nom-là. Maintenant, il faut réfléchir. C'est pour ça que j'avais pas du tout envie de rentrer dans ce jeu-là, de faire bouger les musiciens, que les musiciens se mettent à devenir des acteurs. Je voulais trouver le moyen que tout en étant dans les éléments de l'opéra, respecter chacun dans ce qu'il doit faire et ce qui est son métier. Je trouvais que c'était bien de garder une forme de sobriété dans tous les éléments, que ce soit l'élément du chant, que ce soit l'élément des instruments ou l'élément scénographique. Voilà, tout est extrêmement sans exagération. Et sans surjeu. Voilà, en fait, je cherchais quelque chose comme ça. Pour ramener tout jusqu'au bout, c'est jusqu'à dire, bon, c'est une espèce de mise à mort, si on veut. Bon, je vais sur des terrains assez dangereux. Mais il y a une forme quand même de mise à mort. Mais la toute fin, il y a une, tout s'inverse en une fraction de seconde, par magie.
D'entendre le compositeur libanais Zad Moultaka décrire son travail en cours d'un opéra arabe se basant sur la poésie et l'inventivité des joutes oratoires traditionnelles du Liban. La première de cet opéra aura lieu les 22 et 23 avril prochains à Poitiers, puis sera montée à Marseille à la Cartonnerie le 30 avril dans le cadre du Festival des Musiques 2010. Et si vous voulez en savoir plus sur les joutes oratoires libanaises, n'hésitez pas à lire ou à relire le passionnant texte de Suzy Félix, paru dans le numéro 28 de La Pensée de Midi, qui s'intitule « Les chants d'Orphée ». Pour terminer cette émission où vous avez entendu Neil Denise vous présenter la DJ germano-turque DJ Ipek, Thierry Fabre, Jean-François Mattei et Jean-Yves Guérin autour de Camus et La Pensée de Midi, et enfin le compositeur libanais Zad Moultaka présenter son travail en cours de composition d'un opéra arabe, je vous annonce la parution du nouveau numéro de la revue La Pensée de Midi, De l'humain, nature et artifice, un numéro dirigé par le sociologue, directeur de l'Observatoire du religieux et professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, Raphaël Liogier, autour du devenir de l'homme au regard des avancées du monde scientifique ou quand le monde de la recherche rattrape celui des plus folles inventions du monde de la science-fiction. Un sujet rarement débattu qu'il est pourtant urgent de traiter. Nous vous invitons à venir écouter Raphaël Liogier et des auteurs de ce numéro en discuter lors de la soirée de lancement de cette nouvelle édition de La Pensée de Midi, le 30 mars prochain, à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, à partir de 18h. Merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain.